Et puis, on va donner tout de suite la parole à Marie-Christine Moll, puisqu'aujourd'hui, on parle de qualité, de simulation et démarche qualité. Et donc, c'est Marie-Christine Moll qui va présenter les rappels sur les différents types d'évaluation des pratiques professionnelles et du développement professionnel continu.
Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce sujet qui en général, n'emballe pas les foules. Et en plus, à 8h30 donc, du matin, j'espère que vous allez quand même vous intéresser à ce sujet. Donc, ce n'est pas forcément un cadeau parce que, en fait, moi, je travaille à l'hôpital depuis 20 ans. J'ai mis en place les premières démarches d'accréditation et de certification et les premières démarches de PP en 2005, que j'avais trouvées plutôt intéressantes. Et au CHU d'Angers où j'étais, on avait quand même bien développé le PP. Et quand le DPC a pointé son nez, on a quand même eu l'impression que ça avait beaucoup disqualifié le PP et que ça avait compliqué beaucoup les choses. Alors, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, donc ce qui sera intéressant, c'est qu'on discute. Hier, nous avons eu à l'Assemblée générale une discussion assez agitée sur les problématiques du DPC. Bon, donc je vais essayer de vous présenter ce que théoriquement devrait être le DPC, puisqu'il ne faut pas perdre de vue quand même que son objectif, c'est pas de financer des organismes de formation, c'est d'améliorer ses pratiques et de sécuriser ses pratiques. Donc, dans le cadre de EPP qu'on avait mis en place dans les établissements de santé à une époque, qui est quand même un peu, la certification avait beaucoup promu cette démarche dans la deuxième et la troisième itération, puis la quatrième, on l'a vu un peu disparaître. Le sentiment quand même que c'est des choses qui ont un petit peu baissé en termes de mise en œuvre dans les établissements. Et du coup, le DPC n'a vraiment pas arrangé les choses du fait de sa complexité et du fait des problématiques de financement qui sont derrière. Sachant en plus que quand on a le dispositif a été mis en place, il a plutôt été conçu pour le libéral et pas trop pour les établissements de santé. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments, en tout cas qui sont pour moi les choses importantes de mise en œuvre pour l'amélioration des pratiques. Et puis après on discutera sur la mise en œuvre actuelle avec notamment l'agence du DPC qui ne nous simplifie pas vraiment la tâche. Alors, je vais voir si je peux. Voilà, donc, je vais aussi pas vous parler du DPC de façon générale, mais je vais quand même l'appliquer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la simulation. Et comme on a travaillé beaucoup avec Jean-Claude Grandry sur les bonnes pratiques de simulation, et notamment la conversion de la simulation, la reconnaissance de la simulation comme outil de DPC, je vais quand même m'intéresser plus au DPC via la simulation, et pas trop sur le reste. Mais si vous avez des questions sur d'autres sujets, bien évidemment, je pourrais aussi y répondre. Alors, donc, moi, je m'occupais depuis longtemps donc, de qualité de gestion de risque à l'hôpital. Et puis, je suis chargée de mission par la HAS sur la simulation pour la dernière partie de la mission qui concerne, finalement, la gestion des risques et la simulation. Donc, voilà, donc, le PP et le DPC, j'ai quand même pas mal pratiqué. Alors, si on reprend finalement, l'esprit du DPC et de PP, hein, donc dans les textes réglementaires qui nous ont bien amusés pendant des années, puisqu'il y en a eu plein, depuis 2005, il y en a eu beaucoup qui ont beaucoup changé le dispositif, qui l'ont fait changer, évoluer, ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'y retrouver aujourd'hui pour savoir exactement où on en est en termes de réglementation, de mise en œuvre et finalement de finalité du DPC et de l'EPP. Donc si on regarde sur le fond et sur la méthode, et c'est un peu quand même là-dessus que je pense qu'il faut qu'on s'intéresse, eh bien normalement, on commence par se dire, mais finalement, pour que une action soit reconnue en DPC, et ça commence à se compliquer là déjà, il faut qu'elle prenne en compte les différentes orientations nationales ou régionales, en tout cas nationales, qui sont aujourd'hui balisées par des décrets que je vais vous présenter tout à l'heure, qui définissent finalement tous les 2-3 ans les orientations nationales. Donc là, c'est les orientations 2015-2018, donc sur 3 années, et puis on aura bientôt les nouvelles orientations pour 2019 et voilà, 2021. Donc chaque année, ça change, et c'est défini par les hauts conseils de les commissions scientifiques et qui sont rattachées finalement à la NDPC. Donc vous allez voir que ça ne s'est pas simplifié. Avant, les orientations étaient assez génériques, et finalement, on est arrivé à rentrer toutes nos actions dedans. Maintenant, elles sont un peu moins génériques et tellement bien qu'il y a des moments où il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes pour les établissements de santé parce que ça correspond à des besoins en termes de gestion de risque de qualité et malheureusement, elles ne rentrent pas dans les orientations nationales et du coup, on a du mal à les valoriser en DPC, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas valides pour l'amélioration des pratiques. Donc, premier problème, c'est de faire entrer les actions pour les valider en DPC dans les orientations nationales dont je vais vous montrer quelques extraits tout à l'heure. Donc après, il y a le caractère pluriannuel, car en tant que professionnel de santé, médecin, paramédicaux, voilà, on est sage-femme, on est obligé, on a une obligation de DPC. Alors, cette obligation a évolué. Au départ, elle était quinquennale, c'est-à-dire que tous les ans, on devait faire une action pendant 5 ans. Aujourd'hui, elle est triennale et elle est un peu moins exigeante puisqu'on a obligation de faire au moins une action sur les 3 ans. Ce qui montre déjà que l'exigence a diminué. Pourquoi ? Parce que les financements, eux aussi, n'ont pas augmenté. Et donc, en revenant à une chose beaucoup plus raisonnable, eh bien, au niveau national, il y aura moins d'argent de dépenser pour le DPC. Dans le texte originel, en tout cas, bon, évidemment qu'il faut que le thème soit en rapport avec l'activité du praticien ou du professionnel, c'est évident, on ne va pas faire de DPC sur le jardinage ou sur autre chose. Donc ça, c'est une évidence, mais c'est quand même dans le texte. Il doit y avoir aussi, parce que finalement, la formation, ce n'est pas histoire de se former, c'est aussi d'améliorer ses pratiques et d'améliorer la qualité des soins que l'on prodigue à ses patients. Donc évidemment, il faut théoriquement que l'action de DPC que l'on mène ait un impact sur l'amélioration de nos pratiques et donc sur l'amélioration de la prise en charge de nos patients. C'est théoriquement l'objectif. Hein, donc voilà. Ça doit évidemment respecter la confidentialité à la fois pour le professionnel qui est évalué finalement à travers le DPC, donc évidemment il ne faut pas que ce soit non plus une évaluation négative ou normative ou péjorative, et puis évidemment si on rentre dans l'action de DPC des éléments qui concernent les patients, évidemment on doit respecter la confidentialité. Alors il y a un élément important qui a son importance en termes de financement, c'est l'indépendance professionnelle des intervenants dans le DPC et dans la formation. Et quand on veut qu'un organisme veut devenir organisme de DPC, ben, il doit faire la preuve qu'il n'est pas financé exclusivement par les laboratoires, pour raccourcir un peu les choses. Donc il est important de démontrer son indépendance professionnelle, et notamment, et c'est tout un travail, toute une galère à faire, mais il faut que vous voulez être organisme de DPC, il faut démontrer que vos intervenants, par exemple, n'ont pas de conflit d'intérêts, notamment avec évidemment l'industrie pharmaceutique. Alors, depuis quelques temps, ben, on a une agence nationale. Avant, on avait un organisme de gestion du DPC national qui est devenu une agence, une de plus, nationale sur le DPC. Et c'est pas elle qui va nous simplifier la tâche, comme vous allez le constater. Normalement, dans le texte originel, on a dit aussi qu'il est important que dans le programme de DPC, on retrouve une implication individuelle de la personne qui se forme dans une action collective. Et on a beaucoup parlé hier et avant-hier d'action collective pluriprofessionnelle, qui est quand même en simulation typiquement une bonne chose. Et puis dans la vraie vie, dans un hôpital ben, quand même, ou dans une structure, finalement, le résultat du soin, il n'est pas, c'est pas la somme des résultats des individus, mais c'est bien une synergie d'équipe qui va autour du patient permettre une amélioration des pratiques. Donc normalement, dans le texte original, on invite les gens à se former en équipe pour avoir une performance collective. Vous verrez aussi que là aussi, dans les nouvelles prérogatives de l'Agence nationale, cette chose-là, elle est contradictoire, puisque à la fois le texte originel nous dit qu'il faut faire de l'individuel et du collectif, mais que dans la réalité des faits, on arrive peut-être à des choses où on est plutôt dans de l'individuel et modérément sur du collectif, puisqu'il y a des actions qui sont collectives et qui sont retoquées par l'Agence et qui ne sont pas validées par l'Agence. Donc on est vraiment sur une logique assez contradictoire. Donc dans le texte originel, donc on a aussi le besoin d'avoir des approches à la fois mélangées cognitives et aussi évaluatives. Et donc là aussi, dans les programmes de DPC que l'on va monter, ben, il est important de normalement, hein, puisque c'est le texte qui le dit, mais là c'est pareil, l'agence n'est pas forcément attentive à cela, on doit avoir un mélange des deux, c'est-à-dire des approches cognitives, alors sous la forme que vous voulez, hein, et puis des approches où on a vraiment de l'évaluation, de l'amélioration de nos pratiques. Et enfin, et ça par contre, ça reste valide, il faut utiliser au moins un outil qui est validé par la Haute Autorité de Santé comme outil de DPC. Alors, on a de la chance puisque grâce à nos travaux et aux travaux de la SOFRA-SIMS, eh bien, la simulation a été reconnue comme un outil de DPC à part entière. Donc, je dirais qu'au départ, je m'étais dit, moi, qu'à partir du moment où on mettait simulation dans un programme de DPC, celui-ci serait validé, ben, c'est pas si vrai que ça puisqu'il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, la cadence, elle est triennale. Je vous ai dit, l'obligation est sur 3 ans. Normalement, le justificatif de nos programmes de DPC doit être envoyé quand nous avons des ordres à un autre ordre, qui valide finalement notre obligation. Pour ceux qui n'ont pas d'ordre, normalement, ce sont les ARS qui valident. Mais alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pharmaciens dans la salle, mais en tout cas, les seuls ordres qui réclament à leurs membres des justificatifs de DPC de façon systématique sont les pharmaciens. Pour les médecins, moi, je n'ai jamais reçu de mon ordre de demande de justification de mon DPC. Je ne sais pas si si vous, vous avez reçu, mais dans différents conseils de l'ordre, mais pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Donc, pour l'instant, on a l'impression quand même que, même s'il y a une obligation, peut-être n'y a-t-il pas derrière non plus de contrôle ou de sanction. Enfin, vous me direz si vous avez, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont eu des réclamations de leurs ordres, mais moi, je n'en ai pas eu. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pas très encourageant, parce que vous savez qu'en France, quand même, on est souvent encouragé par la réglementation et le bâton, mais que pour l'instant, on n'a pas trop de demandes de ce côté-là. Donc, ça n'arrange pas les choses. Alors, pour satisfaire l'obligation de DPC, donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement ? Eh bien, on a un choix finalement, on n'est pas contraint, alors c'est déjà ça, on a un choix de faire au moins une, il faut faire au moins une action sur les 3 années, et on a le choix au milieu de tout ça, soit on a un collège qui vous donne des directives ou des préconisations sur un parcours qu'il considère comme un parcours valide, et donc on peut se conformer à ce parcours pour faire son programme de DPC, et seulement à cela, et donc là on est voilà, là-dessus. Soit on peut s'engager dans une démarche d'accréditation individuelle, donc je sais par exemple que dans le public c'est un peu moins développé, mais dans le privé évidemment, les professionnels de santé, notamment les médecins qui ont des activités à risque, se sont beaucoup inscrits dans les démarches d'accréditation, qui sont au départ plutôt bien, mais elles valent ce qu'elles valent, puisqu'on sait qu'on doit déclarer un certain nombre d'événements porteurs de risque, en fonction des différentes spécialités, les exigences sont un petit peu différentes, et s'engager dans des actions d'amélioration sur ces événements porteurs de risque. L'idée, c'était qu'au final, les organismes d'accréditation puissent identifier finalement tous ces événements porteurs de risque et en tirer des conséquences en termes d'amélioration des pratiques et de préconisation. Alors, je vous signale que la Haute Autorité de Santé a mis en place un groupe de travail sur les événements indésirables graves. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a une déclaration obligatoire de ces événements indésirables graves sur des plateformes nationales, donc qui arrive d'abord, la déclaration arrive d'abord aux ARS. Puis lorsque l'événement est traité par l'ARS, ça remonte à la HAS de façon anonyme et théoriquement la HAS va avoir ce même rôle que les organismes accréditeurs qui va être de regrouper tous ces événements indésirables graves et d'identifier des situations particulièrement porteuses de risque et derrière de peut-être promouvoir des nouvelles recommandations. Ça se rapproche du système d'accréditation. Peut-être qu'un jour, le fait de déclarer son événement indésirable grave permettra de valider son DPC. On verra comment ça va évoluer. Donc on peut aussi s'engager dans une démarche de DPC qui comporte au moins 3 actions que je vous ai mis du côté droit de côté gauche de l'écran. Comportant au moins 2 des 3 types d'actions qui sont proposées et au moins une s'inscrit dans les organisations nationales du DPC et selon la loi et l'article de la loi que vous avez présenté là. Donc ces actions sont de trois types, soit des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques. Donc c'est l'ancienne EPP, vous faites des choses concernant l'audit clinique ciblé par exemple dans votre établissement, ça peut être valorisé comme outil de DPC. Des actions de gestion de risque, alors vous avez tout à l'heure, on va vous présenter la RMM simulée, mais la RMM et la RMM simulée finalement sont des actions de gestion de risque et peuvent être valorisées. Des actions de formation, les formateurs peuvent aussi valoriser leurs actions de formation en DPC. Et donc, on peut tout à fait associer différentes actions, bien sûr, si on est vraiment intéressé par l'amélioration de ses pratiques et la formation professionnelle. Donc voilà. Et puis quand vous avez aussi des formations universitaires, j'ai rien inventé, c'est dans le texte, vous pouvez aussi valoriser les inscriptions aux formations universitaires, c'est un DU de simulation, vous pouvez le valoriser dans vos actions de DPC. Donc voilà, les actions se conforment, donc il faut absolument qu'il y en ait au moins une qui se conforme, qui est finalement le label HAS, et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont évidemment labellisés par la HAS, dont évidemment la simulation. Alors, la HAS, de son côté, donc, a validé un certain nombre d'actions qu'elle considère comme validantes pour le DPC. Donc il y a eu 2 textes, donc avec une réactualisation assez récente, donc une qui était de 2014, et puis ils ont réactualisé la liste de ces actions en 2017. Donc vous avez les références, vous pouvez aller sur le site et vous les retrouverez, de la chaise, vous les retrouverez. Donc je vous ai mis un petit peu un exemple parmi d'autres qui peuvent être utilisés en simulation, mais il y en a évidemment toute une grande liste. Donc vous avez les RMM qui sont revues mentalité morbidité, qui sont soit sous leur forme classique dans les établissements de santé, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont mis en place ce genre de méthode, sachant qu'il y a toujours eu un petit souci de terminologie entre la revue de mentalité morbidité, j'ai entendu hier, et l'analyse des causes sur les accidents. C'est pas tout à fait la même chose, puisque la RMM est une chose décalée dans le temps de l'accident et qui est, et c'est une démarche de partage d'expérience. Bon, je ne vais pas m'apesantir, mais c'est vrai qu'il y a un problème de sémantique. D'ailleurs, la HAS prévoit de revoir un petit peu le guide sur la RMM, mais on peut faire de la RMM simulée, et c'est un sujet vraiment intéressant et qui est validant. Alors, il y a aussi tout ce qui concerne la gestion des risques en équipe, qui sont des choses qui valorisent aussi, qui peuvent être valorisées en DPC, et en matière de simulation, quand vous faites du CRM, ben, vous êtes sur une démarche de gestion des risques en équipe, et ça peut aussi être valorisé, à la fois gestion de risques en équipe et simulation. Éducation thérapeutique, j'ai entendu hier que beaucoup de gens font aussi la simulation d'éducation thérapeutique. Pareil, vous avez la possibilité de valider ça en DPC. Et puis, toutes les sessions de simulation en santé, pour peu qu'elles rentrent dans les organisations nationales, vont vous permettre de valider aussi des programmes de DPC. Alors après, c'est pour peu qu'elles rentrent dans les organisations nationales, et c'est là que vous verrez que le bas peut blesser un peu. Alors, la HAS, quand on regarde la fiche qui définit la simulation comme outil de DPC, ben comme j'ai entendu Jean-Claude Rangui le dire, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, ben finalement l'exigence est assez modeste. Nous, on avait voulu, quand on avait contribué à l'écriture de cette fiche, qu'elle soit un petit peu plus exigeante que ça pour dire que la simulation est du DPC, mais ben finalement, on vous demande peu de choses. Ben, on vous dit, les programmes de simulation sont organisés, ça c'est l'affiche, hein, sont organisés en session, ben oui, évidemment, ils sont organisés en session. Cette session peut comporter plusieurs séances, donc rien de nouveau sous le soleil. Chacune pouvant comporter plusieurs scénarios, ben, là aussi, hein, ça vous paraît, c'est une évidence. Et puis, on vous demande évidemment de proposer des supports, mais comme c'est écrit dans les bonnes pratiques, et on vous dit en substance que les supports ne doivent pas comporter publicité, et oui, puisqu'on a, on a une obligation de, finalement d'indépendance, hein, professionnelle sur ce sujet. Donc voilà, si vous faites, faut pas faire de pub pour le laboratoire sur votre plaquette. Ça utilise des références scientifiques validées. On est dans l'EPP, hein, vous vous souvenez. Alors, je ne vous ai pas rapporté la définition de l'EPP, mais je vous rappelle que l'EPP, finalement, c'est finalement une comparaison de ces pratiques à des référentiels de pratiques. Donc, logiquement, quand vous montez un programme de simulation, vous voulez qu'il soit validé en DPC et en EPP, ben, il faut aussi s'appuyer sur des référentiels de bonnes pratiques. Mais je pense que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites. Les auteurs sont précisés, ainsi que les formateurs, et on demande aussi, et quand vous allez poser votre programme, si vous le faites sur l'agence de DPC, on vous demandera la liste de vos formateurs, leur CV, ainsi que leur déclaration de conflit d'intérêts potentiel. Donc ça veut dire qu'il faut que vous les ayez, et surtout il faut que chaque année vous puissiez faire la preuve de leur mise à jour. Donc ça nécessite un petit peu de paperasse pour obtenir tous ces éléments-là. Ensuite, ce qu'on vous réclame pour que aussi le programme soit validant, ben, on vous réclame une fiche d'année à la progression, mais je pense, alors, ou un document qui en tient lieu, et puis une attestation de participation à la session de simulation, et ce n'est pas très exigeant en termes de validation. Donc, voilà, donc, et ils considèrent que la simulation en santé est une méthode de formation, et puis qu'elle permet, et c'est vrai en plus, d'évaluer l'amélioration des pratiques, sachant qu'on en a beaucoup parlé dans les différentes sessions, les modalités d'évaluation des pratiques dans les séances de simulation ne sont pas encore complètement standardisées ni complètement efficaces sur ben, finalement qu'est-ce que la simulation a apporté officiellement sur les modifications des pratiques et l'amélioration des pratiques. Donc ça reste quand même assez flou, mais c'est écrit de façon tellement light que finalement on peut un peu mettre ce que vous voulez. Voilà, donc ça renvoie à la fiche DPC simulation en santé de novembre 2017, qui a été donc remise à jour récemment par rapport à celle qui avait été faite en 2012. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des orientations nationales qui définissaient quelles sont les priorités nationales en matière de DPC. Ces orientations nationales sont fixées par ce fameux décret de 2015 qui vous donne les orientations 2016-2018. Donc vous allez recevoir bientôt, sans doute, on va recevoir bientôt, si c'est déjà fait, un nouveau décret sur la suite, c'est-à-dire les prochaines, qui ne seront pas forcément les mêmes que celles de 2016-2018. Donc, je vous ai apporté quelques sujets, parce que le texte fait 25 pages, hein, donc, ou plus. Donc, je ne vous ai pas évidemment apporté tout ça. Si vous voulez voir la liste et si vous ne la connaissez pas, ben, vous allez sur ce décret et vous allez voir toutes les choses. Il y en a beaucoup, mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais finalement, quand on cherche vraiment à ancrer un programme de DPST dans l'une de ces démarches, ben, ce n'est pas toujours si simple que ça de trouver son bonheur là-dedans. Alors, elles sont en fait organisées en deux sortes de chapitres. Il y a des choses qui sont plus des orientations, on va dire, générales, génériques, qui s'appellent orientations s'inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé. Donc, c'est celles-là qui sont un peu générales, où on se disait, en lisant le truc, que finalement, à partir du moment où on est sur des choses qui relevaient un petit peu de la gestion de risque, aux chausse-pieds, on arriverait à les rentrer dedans. Ben, ce n'est pas si simple que ça, parce que même si vous avez le sentiment que vous allez pouvoir vous accrocher à l'une de ces orientations, en fonction de la personne qui va évaluer votre action de DPC à l'agence nationale, eh ben, vous n'allez pas forcément avoir la même interprétation déjà. Un établissement, une structure fait une demande, vous en avez une autre qui fait la même. En fonction de la personne qui va évaluer votre programme, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat. Une va être validée et l'autre peut-être pas. Donc il y a déjà des contradictions sur ce sujet. Donc c'est regroupé en trois thématiques. Alors, je ne vous ai pas détaillé tout, bien sûr. La thématique 1, c'est renforcer la prévention et la promotion de la santé. Donc, on est sur des choses beaucoup plus santé publique. La thématique 2, c'est faciliter au quotidien les parcours de santé. Vous savez qu'on est très parcours de santé maintenant, hein, les GHT, les parcours de santé, etc. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis trois orientations parmi les nombreuses qui existent. Donc, par exemple, vous avez l'orientation numéro 7. C'est pour vous essayer de voir si, dans vos programmes de simulation, vous pourriez vous accrocher sur ces orientations-là. Donc, par exemple, si vous avez des choses sur la coordination des équipes de soins primaires pour les contribuer à la structuration des parcours de santé du patient, c'est notamment à l'échelle du territoire. Donc, je ne sais pas si vous organisez des séances de simulation, des programmes de simulation qui touchent finalement des parcours de patients sur des GHT, par exemple, mais si c'est le cas, théoriquement, ça pourrait rentrer, mais on pourrait tout à fait imaginer d'avoir un parcours, je ne sais pas, un programme de DPC sur la relation entre le pharmacien de ville et le médecin généraliste ou l'hôpital. Je veux dire, ça peut être un type de parcours. Vous avez l'orientation numéro 8 qui vous dit coordination des soins entre médecins traitants et médecins correspondants. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la relation médecin de ville et médecin de structure hospitalière ou de clinique, bien sûr. Hein. Et puis la 16 qui vous dit, alors celle-là, elle est intéressante parce qu'on en fait beaucoup, c'est l'annonce du diagnostic d'une maladie grave, alors cancer, maladie neurodégénérative, tout ce que vous voulez, sida, etc., maladie chronique. Donc là, vous en faites certainement pas mal. Et donc du coup, si vous faites ça, vous avez de la chance, ça rentre bien, théoriquement, des organisations nationales. Après, il va falloir que vous passiez quand même sous les fourches codines de la NDPC qui va vous dire si, même si ça rentre dans l'organisation, si eux, ils considèrent que c'est valide. Après, vous avez la thématique numéro 3 qui est innover pour garantir la pérennité de notre système de santé, innover en matière de formation des professionnels. Et bizarrement, dedans, vous avez un truc qui n'est quand même pas très innovant, qui est le signalement des événements indésirables associés aux soins. Donc, à partir du moment où vous faites un truc, un programme qui, de près ou de loin, se rapporte à l'analyse des événements indésirables graves, théoriquement, vous êtes dans les clous. Alors, je vous donne un exemple. On a monté un programme sur la médiation médicale, le rôle du médiateur, ben, c'est quand même à la fois de recevoir le patient suite à un événement indésirable grave quand même, et puis à partir du moment où il a fait la médiation, il peut aussi donner des conseils, si on se rapporte au texte, il peut donner des conseils et travailler avec la cellule qualité ou gestion de risque pour améliorer les pratiques et donner des préconisations. Eh bien, on m'a dit que ce n'était pas des personnes des pratiques professionnelles, donc pourtant ça touche des médecins qui vont faire la médiation, qui ont un impact sur la démarche de gestion de risque, qui sont dans la suite d'un événement indésirable grave souvent associé aux soins. Et on m'a dit, ben non, c'est pas bon, votre programme, il ne rentre pas dans les organisations nationales parce qu'on considère que ce n'est juste que du réglementaire. Alors, je pense qu'on fait bien plus que du réglementaire quand on fait l'entretien de médiation, bien évidemment. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément gagné d'avance hein, sur les thématiques. Et pourtant, on a fait un recours en essayant d'expliquer tout ça, et pour autant, on nous a dit non, ça rentre pas dans les orientations. Bon, alors vous avez aussi l'orientation sur la lutte contre les infections associées aux soins. Bon, bien sûr, là, si vous travaillez avec des cellules d'hygiène, vous pouvez aussi faire des programmes de simulation qui renvoient à ce thème. Théoriquement, tout est possible, mais dans la réalité, il peut y avoir des choses qui vont pas être prises en compte. Et puis, bien sûr, il y a un sujet qui est pertinent et super important dans les établissements de santé, c'est tout ce qui se rapporte aux médicaments, puisqu'on sait que la moitié des événements des érables graves d'un établissement de santé, et même en ville, hein, sont liés à des problèmes de médicaments et au circuit du médicament. Et donc, à partir du moment où vous faites de la simulation sur ces sujets-là, théoriquement, alors pour moi, vous êtes absolument dans les clous pour l'amélioration des pratiques et la sécurité. Après, il faut que ça rentre dans les critères et la grille de critères de l'agence. Et ça va aussi devoir aussi rentrer dans les critères budgétaires, puisque pour ceux qui ont commencé à travailler avec l'agence et qui ont demandé des financements au niveau de l'agence, vous savez qu'à la fin de l'année, il n'y a plus de sous, et que même si vos programmes sont validés, ben, on ne va pas payer les derniers qui vont s'inscrire, parce qu'il n'y aura plus de budget et qu'on va vous demander de reporter vos actions l'année suivante, et que les personnes qui n'ont pas pu bénéficier finalement des financements parce que c'était en fin d'année vont pouvoir être peut-être prioritaires l'année d'après. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est quand même très fortement sous-tendu par le budget dont l'agence dispose pour financer finalement le DPC, et notamment dans le libéral, puisque dans les établissements de santé, c'est un petit peu différent, puisque normalement ça rentre dans autre chose et qui est financé par les OPCA. Alors ça, c'était le premier grand groupe de DPC, qui est plutôt sur des choses plutôt générales, qui renvoient entre guillemets à la santé publique au sens vraiment très très large. Et puis après, vous avez les orientations qui vont être définies pour les différentes spécialités. Donc là, ces priorités, elles sont théoriquement proposées par les conseils nationaux professionnels, ou en leur absence, les représentants de la profession ou de la spécialité. Donc là, on est vraiment sur la discipline. Donc je vous ai mis différents exemples, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous donner quelques exemples. Et bien, par exemple, sur les professions médicales, les anesthésistes, par exemple, les anesthésistes, vous avez l'orientation numéro 2 sur la réanimation et les urgences vitales. Donc si vous faites un truc sur la cardio-respiratoire en urgence vitale, vous êtes théoriquement dans les clous, tant que tel que la personne qui examine votre dossier a bien la bonne grille de décodage. Si vous êtes spécialisé en médecine générale, alors au passage, il y a tout un champ hein, sur la médecine de ville, aussi bien pour les médecins de ville que pour les paramédicaux de ville. Il y a tout un champ, à mon avis, qui est mal exploré, parce que je pense que tous ces professionnels de santé, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ils sont un peu loin des dispositifs de gestion de risque, et ils connaissent pas bien, par exemple, quand vous les interviewez sur la déclaration d'événements désirables graves, ils savent pas trop que ce dispositif existe. Enfin, il y a des médecins d'hôpitaux non plus qui le savent pas, hein, je vous rassure. Mais donc, il y a beaucoup de choses à faire dans leur direction, et je pense que vous avez là un public ou une clientèle, je ne sais pas comment dire, qui pourrait être intéressée. Et donc, vous avez des choses qui sont aussi possiblement faisables pour eux. Alors, vous avez l'orientation numéro 8, c'est l'usage des outils relevant des plateaux techniques, diagnostiques et thérapeutiques en soins primaires. Donc, voilà, audiométrie, exploration respiratoire, petite chirurgie, gestes techniques, gestes d'urgence. Hein. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais il y a Bruno Debien qui fait de l'in-situ. Voilà, nous fait des choses très intéressantes dans les cabinets dentaires, donc, voilà, sur l'urgence vitale. Et donc, on peut tout à fait faire des choses pour la médecine de ville. Bon, je passe sur les biologies médicales, mais il y a des choses possibles. Sur les professions de la pharmacie, on a la vigilance et la gestion des erreurs médicamenteuses, alors bouteille à l'encre, mais beau sujet, on peut faire plein de choses. La gestion de l'urgence à l'officine, donc c'est pareil, on peut tout à fait imaginer qu'on a un patient qui fait un arrêt cardio-respiratoire dans une officine pharmaceutique, et qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut tout à fait faire aussi de la formation dans ce sens. Vous avez aussi, je vous ai mis un exemple sur les auxiliaires médicaux et les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, qui ont aussi donc des orientations spécifiques. Par exemple, installation chirurgicale du patient au bloc opératoire, on peut tout à fait imaginer la simulation là-dessus, c'est assez facile. Ou bien les formations techniques d'assistance cardio-circulatoire, je pense qu'il y a eu des exemples qui ont été donnés dans les jours précédents. Et puis tout ce qui est exercice en équipe, le problème c'est que normalement, je vais proposer tout à l'heure à quelqu'un de témoigner sur ces sujets, parce que c'est bien que vous ayez aussi un retour de des gens qui utilisent la plateforme de la NDPC. L'exercice en équipe, théoriquement, ça exige une équipe pluriprofessionnelle. Or là, on vous parle d'exercice en équipe, mais pour les auxiliaires, et donc on ne sait pas où sont les médecins s'ils travaillent ensemble. Donc voilà, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Alors je vous ai mis un exemple de programme. Donc par exemple, si vous êtes médecin anesthésiste, on pourrait imaginer que sur 3 années, vous fassiez une info au moins une, de toute façon, donc vous n'avez pas besoin de 50. L'année 2016, vous faites une formation sur la simulation sur réanimation urgence vitale, et où en 2016, un DU de simulation en santé, puisqu'on est sur la simulation, et puis en 2018, vous participez régulièrement à votre RMM, donc tout ça potentiellement est validant pour votre DPC. Alors, en fonction du fait que vous travaillez en établissement de santé ou dans le libéral, vous avez plus ou moins de facilité à faire valoriser, valoriser vos actions de DPC, bien sûr, à l'agence nationale. Alors, un petit peu de financement, puis après je pense que je poserai quelques questions, puis je laisserai, s'il veut bien, Bruno Devienne nous faire un petit témoignage, parce que c'est ce qu'il nous a dit un petit peu en AG hier, et je pense que c'est bien qu'il vous en fasse un petit peu un retour. Donc il y a un texte, vous allez voir, je vous le passe là, c'est si vous allez sur l'agence sur la NDPC, vous avez ces fiches qui vous donnent, alors je ne sais pas si elles sont lisibles, oui, si, qui vous donnent finalement par profession les niveaux de financement. Oui, donc c'est quand même à jour puisque c'est l'année 2018, c'est comment est financé en 2018 le DPC. Donc vous avez des règles qui sont assez restrictives. Alors si vous voulez, on peut voir les choses de deux façons. Soit on va valider son obligation, et puis c'est tout, c'est-à-dire qu'on va la valider parce qu'on considère qu'il faut la valider, et dans ce cas-là, on fait quelque chose qui va valider, et puis c'est tout. Ou alors, on va décider qu'on fait du DPC pour s'améliorer, pour améliorer ses pratiques. Ce n'est pas du tout la même optique. Donc, si vous voulez valider votre DPC, et seulement cela, eh bien, vous avez des règles qui sont formation, en présentiel, la formation doit comporter une première réunion de 3 heures ou de 6 heures consécutives, ça dépend des professions, voilà. En non présentiel, parce qu'on peut faire aussi du learning, on peut faire des choses à distance. La durée minimum, c'est 1 heure ou 3 heures en fonction des professions, mais c'est plafonné selon les différentes professions. Les règles varient selon les professions. Vous allez voir toutes les professions. Et le forfait est calculé pour chaque type de profession. C'est-à-dire que le financement n'est pas le même si vous êtes infirmière ou si vous êtes médecin. Alors, en gros, je vous ai mis l'exemple médecin. On a droit à 21 heures de formation par an sur 3 années. Donc chaque année, 21 heures, dont 10 maximum pour du non-présentiel. On ne peut pas faire plus de 10 heures. Voilà. Et votre heure, elle est rémunérée 45 euros de l'heure. Donc ça vous fait un budget de 945 euros, j'ai calculé hier. J'espère que vous n'êtes pas trompé. 945 euros pour un an et sur 3 ans, ça vous fait 2835 euros. Avec ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse se former de façon à améliorer véritablement ses pratiques sur des sujets qui nous intéresse parce qu'on sait qu'on a à progresser sur ces sujets.
Chère donc, Marie-Christine, ça fait déjà une petite demi-heure, c'est absolument passionnant.
C'est presque fini.
Voilà, super, merci beaucoup.
Donc voilà, donc évidemment, si vous avez vous êtes en groupe, vous pouvez obtenir des négociations de tarifs moins élevés. Mais voilà, donc normalement, vous vous inscrivez, si vous êtes libéral, vous inscrivez sur l'ODPC, vous inscrivez sur l'agence nationale, et c'est l'organisme de DPC qui est remboursé du montant de la formation. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la manne extraordinaire. Donc là, je vous ai mis le site de l'agence nationale avec des questions. Est-ce que finalement le DPC, il y a un enjeu d'amélioration de nos pratiques et de la sécurité? Est-ce que c'est un enjeu financier? Est-ce que les règles d'acceptation des programmes sont si claires que ça par rapport au financement qui n'est pas extensible, par rapport aux personnes qui évaluent ces programmes? C'est des questions qu'on peut poser, mais ça pourrait être dans la discussion, et peut-être que Bruno pourra nous donner quelques éléments. Voilà. Et puis, je n'ai pas le temps, mais je vais vous en quelques minutes, vous savez, on a en plus de tout ça, un truc qui s'appelle DataDoc. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un. Vous aurez, je pense, les diaporamas. Il y a un texte qui confie finalement aux organismes financeurs la capacité d'évaluer la qualité de nos programmes de DPC sur les 6 critères qui sont affichés là, et notamment tout ce qui concerne la satisfaction des demandeurs, de la satisfaction des formés, la qualité professionnelle des intervenants, sur les procédures de recrutement des professionnels enfin qui forment, etc. Donc c'est un gros travail. Donc, vous voyez, ce sont tous les OPCA, tous les organismes financiers qui se sont regroupés pour le DPC, pour DataDoc. Et en fait, ce qu'on demande à l'organisme de DPC, c'est une véritable démarche de certification ISO pour être référencé par les organismes financiers. Et si vous n'êtes pas référencé par les organismes financiers, vous ne serez pas financé dans votre DPC. Donc, en plus de l'agence nationale, vous avez en plus cette obligation-là. Donc voilà, j'ai terminé sur ce sujet passionnant, mais un peu problématique en termes de... Ça pose pas mal de questions, en fait.
Très complexe. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ce qu'on vous propose, c'est de continuer les présentations et de vous faire intervenir après pour les questions. Il y a un témoignage aussi qu'on essaiera de faire en fin de séance.